Laudetur Jesus Christus.
Je désire tellement vous rencontrer, voir vos visages et visiter votre terre. Les propos sont du pape François. Il s'adresse bien sûr aux Irakiens. À la veille de son départ pour ce berceau de civilisation, nous l'écouterons juste après les titres. Au programme de ce week-end en Irak, la rencontre avec le chef religieux chiite Al-Sistani. Un rendez-vous historique, nous dira le cardinal Filoni, ancien nonce à Bagdad. Puis direction Jérusalem, où la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur les crimes présumés d'Israël dans les territoires palestiniens. C'est l'épilogue d'une affaire qui agite l'archipel français de Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs mois. Nous l'entendrons, un accord a été trouvé pour la reprise d'une usine de nickel, phare dans la région.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, le pape François est donc attendu demain en Irak. Le Saint-Père s'envolera demain matin direction Bagdad pour le 33e voyage apostolique de son pontificat. Un voyage sur la terre d'Abraham pour témoigner de sa proximité envers le peuple irakien. Dans un message vidéo enregistré, François fait part de son impatience d'être parmi les Irakiens et de rencontrer notamment une église martyre. On l'écoute.
Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamu alaikum.
Chers frères et sœurs en Irak, assalamu alaikum. Dans peu de jours, je serai enfin parmi vous. Je désire tellement vous rencontrer, voir vos visages et visiter votre terre, antique et extraordinaire berceau de civilisation. Je viens comme un pèlerin pénitent, pour implorer du Seigneur le pardon et la réconciliation après des années de guerre et de terrorisme, pour demander la consolation des cœurs et la guérison des blessures. Et je vous rejoins comme un pèlerin de paix pour répéter « Vous êtes tous frères ». Chers frères et sœurs chrétiens qui avez témoigné de la foi en Jésus au milieu d'épreuves très dures, j'attends avec impatience de vous voir. Je suis honoré de rencontrer une église martyre. Merci pour votre témoignage. Que les nombreux, trop nombreux martyrs que vous avez connus nous aident à persévérer dans la force humble de l'amour.
Au cours de son voyage, le pape François se rendra samedi à Najaf où il rencontrera la plus grande autorité chiite d'Irak, le grand ayatollah Ali Al-Sistani. C'est sans doute du point de vue du dialogue interreligieux le rendez-vous le plus important de ces prochains jours. C'est ce que confirme le cardinal Fernando Filoni, grand maître de l'ordre du Saint-Sépulcre, ancien nonce à Bagdad et envoyé spécial du pape à de nombreuses reprises en Irak.
La visite du Saint-Père à Najaf est historique parce que dans le passé, jamais il y avait eu une autre rencontre comme ceci. Les deux personnalités sont très intéressantes. Le Saint-Père, nous le connaissons, est un homme qui développe les dialogues interreligieux. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ce travail dans l'Église et dans le monde. Aujourd'hui, le Saint-Père tient l'occasion de rencontrer Sistani. Sistani est un homme spirituel. Il tient un âge que nous pouvons dire patriarcal, 90 ans. Un homme qui, dans sa vie, a beaucoup travaillé pour la paix, pour régler pacifiquement beaucoup de choses dans l'Irak et entre les chiites. Ces deux personnalités qui se rencontrent, vraiment, nous pouvons dire comme deux piliers qui sont prêts à faire un arc. Je suis sûr que sera très important pour nous, comme catholiques, pour les chrétiennes et pour les chiites aussi, pour le monde islamique.
Des propos recueillis par Xavier Sartre à retrouver, bien sûr, sur notre site internet. À la une de l'actualité internationale, la politique d'Israël dans les territoires palestiniens devant la Cour de justice de La Haye. La Cour pénale internationale ouvre une enquête sur des crimes présumés de l'État hébreu, comme l'offensive contre la bande de Gaza durant l'été 2014 ou la colonisation en Cisjordanie. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferron.
Cette décision va permettre l'examen de plusieurs dossiers cruciaux, dont celui de l'offensive israélienne de 2014 contre la bande de Gaza, qui avait dévasté toute l'infrastructure de ce territoire palestinien et fait au moins 2200 morts. 70% des victimes étaient des civils, dont quelques 500 enfants. La procureure Fatou Bensouda a en effet précisé que l'enquête porterait sur les éventuels crimes commis à partir du 13 juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, soit donc 3 semaines environ avant le début de l'offensive israélienne. Les factions palestiniennes, dont le Hamas, qui ont salué la décision de la Cour, pourraient elles aussi être accusées de crimes de guerre par le lancement de milliers de roquettes pendant cette même période contre le territoire israélien. 74 Israéliens furent tués, en grande majorité des soldats. L'enquête ouverte pourra également se pencher sur un autre dossier crucial, celui de la colonisation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, qui est menée à l'heure actuelle à un rythme effréné et se transforme de facto en annexion sur le terrain. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Israël, qui n'est pas membre de la CPI, qualifie cette enquête d'essence même de l'antisémitisme et de l'hypocrisie. Washington dit également s'opposer fermement à cette enquête. L'armée doit cesser d'assassiner et d'emprisonner les manifestants en Birmanie. C'est la requête des Nations Unies ce jeudi. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui confirme par ailleurs que depuis le 1er février et le début des manifestations contre le coup d'État, 54 personnes ont été tuées et plus de 1700 arrêtées. Une nouvelle audience du procès Khashoggi s'est ouverte ce matin à Istanbul. La fiancée du journaliste assassiné demande à ce que le rapport du renseignement américain accusant le prince saoudien soit ajouté au dossier, ce qu'a refusé ce matin le tribunal turc. La semaine dernière, en effet, un rapport déclassifié des renseignements américains accusait le prince héritier d'Arabie saoudite d'avoir validé l'assassinat du journaliste. En Afghanistan, 7 ouvriers agricoles issus de la communauté chiite Hazara ont été assassinés dans l'est du pays. Les meurtres ont eu lieu hier soir, indiquent les autorités. Ils n'ont pas encore été revendiqués. L'attaque est survenue à 20 km de Jalalabad, la capitale provinciale de cette région frontalière au Pakistan, où sont actifs des talibans et des membres de l'organisation de l'État islamique. Ces derniers jours, la ville de Jalalabad a été frappée par plusieurs attaques. Mardi, 3 employés d'une chaîne de télévision locale ont été tués. Épilogue de plusieurs mois de crise et même de violence en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, les loyalistes et les indépendantistes de l'archipel français ont annoncé avoir trouvé un accord politique sur le rachat de l'usine de nickel du géant brésilien Vale, une usine à l'arrêt depuis le 10 décembre. Les explications de Marie Duhamel.
La Nouvelle-Calédonie est le 4e exportateur mondial de minerais. Le nickel représente environ 96% de ses exportations. Sur place, on sait extraire, produire, transformer. Une main-d'œuvre existe, mais problème, la vente de nickel, dont la valeur fluctue sur les marchés, ne compense pas les investissements. Entre 2009 et 2021, le groupe brésilien Vale déclare plus de 300 milliards de pertes, annonce donc la vente de l'usine où travaillent quelques 3000 personnes. Parce que l'alliage produit par l'usine est indispensable aux futures voitures électroniques, des groupes se positionnent, mais les indépendants souhaite une nationalisation, il y aura des émeutes, des blessés, des dizaines d'arrestations, puis des tractations qui ont donc abouti aujourd'hui à une solution calédonienne, apaisée et gagnant-gagnant, affirme le président indépendantiste du Congrès, entre les indépendantistes donc et les loyalistes. Cet accord maintient la présence pourtant décriée du négociant suisse des matières premières Trafigura, mais garantit dans le même temps 51% du capital non diluable à des intérêts calédoniens. Autre nouveauté, un partenariat industriel de haut niveau conclu avec le constructeur automobile américain Tesla, grand spécialiste des véhicules électriques, qui profitera en échange de conseils des produits de l'usine de nickel.
Marie Duhamel, l'usine devra donc rouvrir prochainement après 3 mois de fermeture. Aux États-Unis, la bataille contre la Covid est propice aux querelles entre les États et le pouvoir central. Le Texas annonce la fin du port du masque obligatoire et la réouverture de tous les commerces. Même choix du côté du Mississippi. Et ces décisions provoquent donc lire de Joe Biden. La dernière chose dont nous avons besoin est des raisonnements préhistoriques qui affirment que tout va bien, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. L'Allemagne, de son côté, lâche du lest sur les restrictions sanitaires. Le pays était sous cloche depuis les fêtes de fin d'année. Hier, Angela Merkel a esquissé les lignes d'un déconfinement progressif. À partir de la semaine prochaine, les réunions privées seront désormais possibles, mais pas plus de 5 personnes. Et les libraires, fleuristes et auto-écoles pourront rouvrir dans tout le pays. Le prochain retour de l'information, c'est en fin d'après-midi à 18h. Vous aurez rendez-vous avec Marie Duhamel. Très belle journée.